19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Quel plaisir, vous savez, on démarre cette toute nouvelle semaine. Plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à commenter, de plus en plus nombreux à nous appeler chaque soir de 19h à 20h. Et c'est parti pour analyser, commenter et décrypter l'actualité. Alors au sommaire de cette émission, chers amis, d'abord vous êtes prioritaires, vous le savez. Au 01 53 48 3000, vous nous appelez, vous évidemment, et vous venez commenter. Alors les sujets que je vous ai suggérés ce soir... Il y en a pas mal. D'abord, on a un imminent, évidemment, invité qui est avec nous. C'est le président de la Fondation Islam de France, qui est M. Khaled Benchir, que vous connaissez, que je ne présente même plus, qui viendra donc en direct sur ce plateau même nous parler de l'islam et de ses enjeux. Nous reviendrons aussi, vous savez quoi, sur les sujets qui ont retenu notre attention. Tout d'abord, Macron qui tacle Clochette, ça mérite quand même, hein. Alors je sais pas, vous savez c'est le jeu du en même temps. Alors il faudra peut-être qu'on saisisse, mais je laisserai le soin aux débatteurs influenceurs nous expliquer les raisons pour lesquelles. Alors il tacle le Front National, mais en même temps, vous savez, vous le connaissez hein, maintenant, mais on en parlera tout à l'heure. On reviendra aussi sur Manoukian, vous savez, et la panthéisation, et ben on en reparlera, on reviendra sur ce sujet notamment. Alors Darmanin qui aussi, évidemment, il est sollicité de partout, mais là il se trouve que Jordan Bardella. Eh bien, il dénonce la décision du Conseil d'État. Vous savez, il y a une stratégie hein, de la part du Rassemblement National de vouloir, évidemment, tout ça s'inscrit dans un calendrier, tout ça s'inscrit, évidemment, dans une logique, et puis, c'est pas un hasard. Donc, on va tenter de décrypter tout cela avec vous. Petite clochette, quand même, hein, ça mérite. Alors, on viendra aussi, vous savez, sur... alors, vous savez que Emmanuel Macron, paraît-il, alors c'est peut-être officiel, mais ça l'est même d'ailleurs, hein, qu'il a annulé son déplacement officiel à Kiev, donc en Ukraine, sauf qu'il se trouve l'ancien président a un peu balancé Medvedev. Bon, il a laissé traîner, peut-être répandre une rumeur comme quoi Macron serait menacé de mort. Clochette. Bon, est-ce qu'il n'a pas jeté une espèce de truc comme ça et le pavé dans la mare. Ensuite, nous reviendrons aussi, si on a le temps, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Hein. Bref, tout cela, je vous les suggère au 01 53 48 3000. Vous nous appelez et vous nous appelez en toute liberté d'expression. 19h50, c'est Michel Taube, l'éditorialiste, qui viendra nous livrer. Comme chaque lundi, vous savez, tous les jours, vous avez des billets d'humeur. Et bien, c'est Michel Taube ce soir qui viendra sur justement l'interview consacrée dans l'humanité avec Emmanuel Macron, le président de la République. C'est parti, c'est tout de suite. C'est maintenant en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec le président de la Fondation de l'Islam de France. Quel plaisir de vous recevoir, monsieur le président. Monsieur Khaled Benchir, ça va ?
Merci bien, merci. C'est moi qui suis heureux d'être là. Et c'est tout simplement l'ami de Beurre FM et le citoyen que vous recevez.
Ouais, ça faisait longtemps déjà que vous n'étiez pas venu ici, je me rappelle. Ouais.
C'est vrai.
Ouais, ça faisait...
Alors, il y a tout l'épisode du coronavirus,
oui, c'est
mais
vrai.
C'est une tradition à laquelle je m'étais habitué et je regrette que le temps fût passé comme ça sans que nous nous revoyions, mais nous rattrapons ça aujourd'hui.
Absolument. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-moi, monsieur Khaled Benchir, monsieur le président de la Fondation de l'Islam de France, d'abord, avant de rentrer dans le détail, comment elle se porte ? Avec, évidemment, à sa tête, puisque vous avez été reconduit, vous-même et la Fondation, comment vous vous portez ?
L'homme va bien, la bête est solide.
Tant mieux, c'est une bonne chose.
Même s'il y a une obsolescence programmée, ça c'est la décrépitude de la vie, et on a l'illusion de retarder ça, mais ça c'est tout à fait autre chose. Le reste, nous sommes aussi à une échéance de renouvellement de gouvernance, mais le plus important c'est que l'action menée se poursuive. Or, nous manquons de moyens.
Moyens financiers ou moyens humains ?
Les deux, d'ailleurs. Il n'est de richesse que d'hommes. Mais les moyens financiers sont tout aussi importants. Et j'ai envie de dire d'emblée et tout de suite qu'il n'est pas dans la vocation de la Fondation de vivre uniquement, systématiquement, exclusivement, rien que de deniers publics. Il faut bien qu'il y ait un apport...
Ce qu'on appelle des mécénats, donc.
Voilà, du mécénat. Toutefois, il y avait une annonce faite par Emmanuel Macron lors du discours des Mureaux, le 2 octobre 2020, sur cette annonce d'une dotation à la Fondation. Ben, nous n'y avons vu aller au mieux si on considère l'argent qui nous a été donné par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, l'ANCT, 7,8% de la dotation globale, c'est-à-dire sur les 10 millions d'euros, ben, nous les attendons toujours.
Donc, si j'ai bien compris, ce soir, vous vous adressez à tous nos auditeurs et auditrices, partout en France d'ailleurs, à accueillir les grands bras ouverts pour tous les mécènes, les sponsors. Donc, pour votre fondation Islam de France.
Alors,
s'ils nous écoutent ce soir.
Il est dans notre éducation de ne pas être comme ça et surcharger nos auditeurs par une énième demande et quémander de l'argent. Mais il est sûr que si on veut, avec l'éducation, la culture, la médiation sociale, l'enseignement, avoir de la beauté, de l'intelligence, de la spiritualité dans notre pays, ben, il faut bien aussi y participer.
Je vous le dis, chers amis auditeurs et auditrices, si vous nous écoutez partout en France, vous le connaissez, mon franc-parler, je pense que la Fondation Islam de France, de ce que je comprends, en tout cas, elle a besoin aussi de votre soutien. Voilà. Et c'est important de se soutenir pendant les moments difficiles, mais aussi pendant les moments où tout va bien. Donc la Fondation Islam de France a besoin de vous. Si, évidemment, parmi vous, il y a des mécènes, des sponsors, eh bien, n'hésitez pas à venir vous manifester auprès de la Fondation. Tout d'abord, un sujet d'actualité, mon cher président. Alors, c'est Gérard Darmanin qui a demandé le retrait du titre de séjour d'un imam tunisien dans le Gard. Vous avez suivi cette affaire ? Vous savez quoi ? D'abord, attendez avant de vous laisser parler. Je vais vous diffuser un petit extrait. Moi, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, franchement, je vous le dis la vérité, monsieur le président. Quand j'ai écouté ça, on me l'a envoyé, je croyais que c'était une fake news. J'ai vérifié et je me suis dit, ah non, c'est vrai ! Ça existe ! Ah bon ? Bah écoutez, monsieur le président, écoutez, et écoutez les auditeurs.
On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là, dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, ces drapeaux sataniques, qui ne valent rien d'Allah. Ce qu'ils ont imposé, c'est tout simplement pour qu'on se déteste, que la haine, elle soit créée dans nos cœurs, pour qu'on ne s'aime pas, pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle est derrière.
Monsieur le Président, franchement, je vous laisse réagir, parce que quand on écoute ça, qu'est-ce que vous répondez, vous, évidemment, théologien, d'abord, et puis le président de la Fondation Islam de France ?
Enfin, d'abord, l'homme, avant tout, c'est stupide. Et hélas, nous pâtissons de l'impréparation, de l'ineptie de ces ministres du culte, de ces imams, le plus souvent... non formés, autoproclamés, et qui, au lieu d'enseigner avant tout la bonté, la miséricorde, l'amour, l'enseignement de solidarité et de fraternité que recèle à profusion la tradition religieuse islamique et la révélation coranique, et en plus, comme au lieu de faire en sorte que la jeunesse qui doit suivre ses prêches doit aussi s'inspirer...
Parce que c'est pas anodin, monsieur le président, pardonnez-moi de vous interrompre quand même, drapeau tricolore qui nous gangrène. Une enquête préliminaire a été ouverte contre cet imam dans le Gard. Il a raison, monsieur Darmanin, de demander le retrait de son titre de séjour, monsieur le président.
Et comme ça, il ne verra plus de drapeau qui lui gangrène l'esprit. Et il assumera les conséquences de ses propos. Et tant pis pour lui. En tout cas, au nom de la Fondation, nous dénonçons ce type de prêche. Et je condamne totalement cette sortie qui donnera du grain à moudre à ceux qui pensent que les musulmans de France ne sont ni des citoyens, ni des hommes et des femmes ayant une allégeance à la patrie. Qu'il y ait des problèmes, il faut qu'on nous en parlions, mais pas avec ce type de discours.
Dites-moi, Khaled Benchir, monsieur le président justement de la Fondation Islam de France, franchement, quand on voit évidemment ces sorties, quand on voit certaines... l'islam aujourd'hui pratiqué dans les quartiers populaires, beaucoup regrettent effectivement que parfois l'islam a tendance à se radicaliser. Je le dis, l'extrême droite le pointe, d'ailleurs même certaines familles politiques classiques, traditionnelles le pointent aussi. Comment vous voyez, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cet islam pratiqué sur l'ensemble du territoire dans l'Hexagone? Est-ce qu'il y a un souci avec cet islam de France? Est-ce que vous reconnaissez que parfois, effectivement, il y a un déficit ici et là ou
Oui, je le reconnais, et c'est pour ça ce qui explique notre raison d'être. Les maîtres mots sont l'éducation, la culture, la connaissance, l'acquisition du savoir, l'instruction, pour réagir, dirimer, pour fendre les thèses radicales, les comportements extrémistes, et aussi faire en sorte qu'avec dignité, on réponde aux détracteurs, parce que quoi qu'on fasse, cela ne serait pas ravi non plus. Et donc, on est dans une situation où il faut mettre de l'ordre d'abord dans la maison islam. Et il y a de l'ordre à y mettre, parce qu'il y a une telle incurie organique, structurelle, par le manque d'imams sérieux.
Mais comment on peut mettre de l'ordre? Je l'entends ce mot. Comment on peut mettre de l'ordre, monsieur le président? En même temps, vous savez, les musulmans de France, hein, dans la majorité, ils vivent leur islam de façon sereine, tranquille, etc. Mais comment on peut mettre de l'ordre quand vous avez le CFCM qui est divisé, quand vous avez l'enseignement en CFCM, quand vous avez les nouveaux, vous savez, ces nouvelles institutions aujourd'hui qui sont censées représenter l'islam de France, sont divisées aussi. Quand vous voyez que les Algériens d'un côté, les Marocains de l'autre, les Tunisiens, les Maliens, les Sénégalais, les Turcs, tout ça, effectivement. Comment organiser qu'il y ait une espèce de cohérence, y compris aux yeux du français classique qui se dit, bah voilà, cet islam de France...
Et donc, aux musulmans de France et aux musulmanes de France...
Aux musulmans de France, vous avez raison.
D'avoir le sens des responsabilités et surtout un engagement pour que leur tradition religieuse sous la voûte commune de la laïcité puisse être vécue sereinement. Et vous avez tout à fait raison de dire que la majorité écrasante des citoyens et résidents musulmans en France vivent leur tradition religieuse avec calme, avec sérénité, avec sérieux, avec dignité aussi, parce qu'ils ne cessent d'être brocardés, insultés, injuriés injustement. Il y a une partie de ces pseudo-responsables religieux, il faut du temps. C'est un investissement sur l'avenir, un pari sur l'avenir, et ce que, en tout cas, à notre niveau, au niveau de la Fondation, nous qui sommes uniquement dans le champ culturel, éducatif, civilisationnel, et d'ailleurs c'est pour ça que nous leur donnons, en tout cas ceux qui le souhaitent, des bourses pour aller étudier à l'université et doubler ainsi leur formation religieuse et culturelle par une formation civile et civique, où l'on apprend le droit des cultes, l'histoire de la laïcité, les idées politiques, le patrimoine français, l'histoire de l'Europe, tout cela, l'histoire de l'art, tout cela est important.
Alors, ça c'est votre fondation, je l'entends bien, et vous avez raison effectivement, ça passe par l'éducation, la culture, et puis la chose religieuse, vous avez tout à fait raison, mais comment voyez-vous cette organisation des musulmans de France?
Alors,
et c'est très juste ce que vous venez de dire, c'est pas l'islam de France, c'est les musulmans de France.
Oui, c'est vrai aussi. Il y a tout un débat sur le « de France » ou le « en France ». Il s'agit des citoyens et des résidents, donc les musulmans de France, en réalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? De deux choses l'une. Soit parier sur la chronobiologie. Il y a une génération qui doit partir parce qu'elle a cru bon de considérer le fait de parler de la chose islamique, ça lui confère une notabilité, en dépit de l'incompétence. Et dans ce cas, investir sur les jeunes pousses, et il y en a, par la formation, et surtout la formation des imams, des aumôniers. Nous le faisons pour la partie proprement profane, si je puis dire. Mais aussi l'aumônerie, les aumôniers, les prédicateurs, les présidents d'associations, etc., pour que ce type de dérapage et ce type de saillie ne puisse pas avoir lieu.
On arrive au terme de cette... ça va vite à l'interview, hein, monsieur le président. Monsieur Khaled Bencher, alors, deux questions, deux événements majeurs, deux événements à ne pas manquer, si j'ai bien compris, qui sont incarnés par vous-même et la Fondation L'Islam de France, c'est le 6 mars et le 3 avril. Alors, le 6 mars, si j'ai bien compris, là, alors, vous allez nous expliquer pourquoi, quand on en parlait en off, ça m'a un peu secoué. Et vous allez nous répondre. Alors, maintenant, c'est les animaux qui s'attaque aux humains.
Oui, il y a
expliquez-nous, alors moi j'aimerais comprendre à nos auditeurs, de quoi s'agit-il?
Le 6 mars...
Les animaux qui attaquent les humains maintenant.
Oui. Le 6 mars, à la salle Colonne, donc dans le 13e, va y avoir un procès. C'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté même dans l'histoire. Mais un procès qu'intentent des animaux contre l'homme pour sa domination.
Excellent, ça.
Et il se trouve qu'elle est dans le patrimoine islamique.
Ouais. Ça donne envie, en tout cas.
Donc, ce sont les frères de la pureté, une société savante, secrète, des encyclopédistes avant l'heure, qui ont composé 52 épîtres, et dans leur 22e épître, un traité, une lettre, ont parlé de ça. Et d'ailleurs, figurez-vous, le procès était présidé, le tribunal était présidé par un djinn.
Donc, excellent.
Nos amis sont...
Il faut venir le 6 mars, hein.
Ah, il faut venir.
Ah, il faut venir. Moi, ça me donne envie. Moi, j'y serai parce que. Non, mais c'est intéressant. Même quand c'est pas mal, hein.
Et donc, ça veut dire que le bien-être animal, c'est pas nouveau dans la civilisation islamique. Et les préoccupations d'ordre écologique, même si on n'utilisait pas le mot, étaient centrales dans cette civilisation. Le second.
Le 3 avril.
Le 3 avril, c'est une adaptation, une reconfiguration. Pour qu'on ne nous traite pas trop d'élitisme, de l'opéra L'Enlèvement au Sérail, composé par Mozart, qui présente le pacha Selim, le prince musulman, comme un homme magnanime qui consent à restituer l'amoureuse Constance à son fiancé. Ça nous fait sortir de la vision du musulman.
Et ça, c'est où? Ça se passe où?
C'est toujours à la salle Colonne et c'est le 3 avril.
Eh ben, je vous le dis, les amis auditeurs, ça donne envie, franchement, voilà. Si vous voulez changer votre quotidien et sortir de votre quotidien, 6 mars, c'est noté.
Et 3
avril. Et le 3 avril, c'est noté aussi. Voilà. C'était un plaisir, monsieur le président
d'Église. Il faut s'inscrire pour le 3 avril, il y aura même un iftar. Puisqu'on sera en plein mois
en plein,
de
oui,
Ramadan.
Vous avez raison, en pleine période du Ramadan, exactement. Voilà. Donc il y aura en plus un iftar, vous allez vous rendre compte. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs? D'une phrase, avant de lancer la pause?
Eh bien, nous vous aimons, et parce que c'est d'un manque d'amour que nous étouffons, et c'est un manque de tendresse que nous sommes asphyxiés.
Monsieur le Président, j'ai envie de dire, donc, voilà, trois événements, moi, c'est trois. Vous savez pourquoi je vais vous dire le troisième, c'est lequel? Le premier, c'est le 6 mars. Le troisième, c'est le 3 avril. Et le troisième, vous savez, c'est lequel? C'est aller soutenir la Fondation d'Islam de France. Ça, c'est aussi, c'est un événement. Allez soutenir tous les mécènes. J'en connais, je sais qu'il y en a plein de chefs d'entreprise qui nous écoutent tous les soirs. D'ailleurs, vous nous appelez. On a des têtes parmi les auditeurs. Et franchement, si vous sentez, évidemment, de soutenir la Fondation Islam de France, allez-y. C'est noble. C'est beau. Donc voilà, c'était les paroles du président. Khaled Benchir, au plaisir, ne disparaissez pas, attention. Hein.
Non, je viendrai.
Attends, faut venir régulièrement, faut venir nous voir.
Avec joie et
bah oui,
avec
vous
grand
vous avez
plaisir.
Manqué, faut venir.
Bien.
Merci monsieur Khaled Benchir, monsieur le président donc, de la Fondation Islam de France. Merci, à très bientôt. Merci. Allez, on se retrouve avec ces beaux mondes. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive, Augustin? Vous secouez la tête. Respect, non?
Ah mais respect, c'est pour ça que je vais l'écouter religieusement, c'est le cas de le dire.
Ah oui, c'est le cas de le dire. A tout de suite, on marque la pause.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
C'est parti pour le face-à-face, chers amis, 19h22.
Les informés. Le face-à-face.
Je commence par la seule femme qui est avec nous. Elodie, bonjour. Elodie, comment ça va?
La forme, comme d'habitude.
Tout va bien?
Très bien, tout va très
Europe,
bien.
Europe Écologie Les Verts, la conseillère régionale. Attention, hein, ça ne plaisante pas.
Ça ne plaisante pas.
En plus, elle est venue avec ses notes, tout est rédigé bien et tout.
Bah, il faut bien qu'on refait un face-à-face.
Ouais. Auguste, ça va?
Bonsoir.
Augustin, ça va?
Bonsoir. Très bien, et vous?
Ouais, c'est vrai. Tout va bien.
Le lundi, c'est super.
Paul, ça va?
Parfait. Interview passionnant. Donc, c'est toujours intéressant.
Vous parlez de qui? Ah, vous parlez du président?
Ah oui,
ah, ouais, bien, c'est bien.
C'est intéressant. C'était
franchement, ça fait plaisir quand même, non?
Dépasser,
ça donne une autre vision de l'islam en France.
C'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant. Non, il est bon, il est bon.
Et puis, les deux événements ont l'air assez intéressants.
Ouais.
C'est un angle. J'aime bien l'angle.
Bah, tout est ouvert, donc faut y aller.
Ah, bah oui.
Ouais, faut y aller. Jimmy!
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Mais écoutez, ça va, tranquillement.
Bon, bah allez, écoutez, vous savez quoi? On va démarrer tout de suite sans tarder, sans détour surtout. Vous savez quoi? On va aller direction le Bataclan, parce que ça a fâché, vous savez quoi, notamment beaucoup, et ça a fâché les familles des victimes. Et je peux les comprendre, c'est normal. Hein. Ça a été scandé, le fait d'avoir dit dans un concert, hein, Free Palestine. Alors, tiens, Elodie, prenez la parole. Quelle est votre position là-dessus? C'était quand même une centaine de personnes. Après, peut-être que ça dérange personne, hein, mais faisons un tour de table.
Alors, moi, je vois pas en fait le problème à dire Free Palestine à ce moment-là, parce que En réalité, il n'y a pas de rapport entre les attentats du Bataclan et ce qui se passe aujourd'hui actuellement en Palestine.
Mais vous ne pouvez pas nier que le Bataclan a été quand même le lieu...
Mais bien sûr,
c'est symbolique quand même.
C'est symbolique, bien sûr, c'est symbolique et que c'était un attentat. Mais, et comme je le disais la dernière fois à l'antenne, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on mélange tout. On va parler des attentats en France et mettre dans le même panier tous les groupes armés du Moyen-Orient, donc Daesh, le Hezbollah, le Hamas, au même niveau. Mais en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes revendications, déjà, même si les moyens d'action sont similaires, on ne va pas se mentir, ce ne sont pas les mêmes revendications. Donc, scander Free Palestine à un concert au Bataclan, même s'il y a une symbolique, bien sûr, ça n'a pas de rapport, ça ne devrait pas heurter en réalité, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre ce qui s'est passé au Bataclan et ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et qui est inadmissible.
Est-ce que vous comprenez les familles des victimes?
Mais bien sûr,
vous l'entendez le message,
c'est sensible, c'est sensible pour elle.
Explosif.
Mais ça ne veut pas dire qu'il met Free Palestine, que alors, derrière, ça peut avoir...
Attendez, Elodie Bouzid.
Elodie Bouzid,
je vous redonne la parole. Pourquoi vous l'avez appelée comment?
Elodie Bouzid.
Ah oui, c'est très bon.
Je vous donne, tiens, Augustin Vargue, prenez la parole. Vous dites après, c'est sensible.
Je pense que c'est sensible. Après, s'il avait fait au Grand Rex, qu'est-ce qu'on aurait parlé autant? S'ils avaient,
mais là, il se trouve que c'est le Bataclan.
Là, c'est le Bataclan, il y a une symbolique. Après, c'est sensible, effectivement. Après, je pense que c'est des gens pacifistes. Je pense que, certes, c'est le Bataclan, mais c'est pas incompatible avec que les gens qui aient mis en avant le drapeau de la Palestine soient lucides sur ce qui s'est passé avant. C'est pas opposable.
C'est pas antinomique, pas du tout.
Il n'y a pas eu de gens qui ont dit, qui ont fait l'exégèse du terrorisme au Bataclan, parmi ceux qui ont mis en avant le drapeau Free Palestine. En tout cas, on n'a pas entendu encore.
Jimmy Dalidou.
Oui, bah écoutez, je pense qu'on a atteint un niveau de sottises qu'on devrait éviter. C'est pas parce qu'on met en avant le drapeau palestinien et qu'on dise Free Palestine qu'on est automatiquement doté de velléité, de mauvaise velléité. Normalement, il faut qu'on revienne un peu les pieds sur terre là,
voilà.
Qu'on reste un peu rationnel. Free Palestine, ça veut dire liberté pour tous les Palestiniens. On sait que nos frères palestiniens, la résistance palestinienne est en plein dans un conflit très difficile. Il y a clairement un génocide qui est en cours en Palestine. Et quoi qu'il arrive, je pense que la majorité des Français, indépendamment des responsabilités d'une part ou d'autre, on en a marre de voir des enfants se faire massacrer, etc. Et il y a un pays qui, voilà, il y a un pays qui s'appelle Palestine, un autre pays et tous les pays ont leur étendard. Si on commence à créer des points de corrélation entre un étendard, un drapeau et des notions de terrorisme, dans ce cas-là, vous savez, on va plus s'en sortir en fait. On va passer notre vie à faire la guerre et je pense qu'on en a tous un peu marre de la guerre.
Paul-Antoine.
Oui, moi j'étais un peu gêné quand même. Après, je vais pas polémiquer plus que ça. Je pense qu'il n'y a pas lieu. J'étais quand même un peu gêné. Et je suis pas sûr que ça fasse avancer la cause palestinienne en France, ce genre d'événement. Mais voilà. Sinon, pour moi, il n'y a pas non plus lieu d'en parler 20 ans. Voilà, moi je l'aurais pas fait. Je comprends largement les familles d'une gêne qu'il y a. Oui, ça je le comprends.
Compte tenu de ce qui s'est déroulé.
Il ne faut pas exagérer la gêne non plus.
Évidemment, ouais. Évidemment.
Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer la gêne non plus. Il faut remettre dans le contexte. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard.
On va passer au second sujet, justement, parce que ouais, vous voyez, le tour de table le plus rapide de l'histoire des informés.
Il est rapide.
Alors, vous savez quoi? C'est l'interview, je ne sais pas si vous l'avez suivi, l'interview, si vous l'avez lu, dans L'Humanité. Alors, l'interview, le président, il prend le temps nécessaire de répondre à la fois sur Manucure, à la fois sur la loi immigration, à la fois sur le Rassemblement national. Et tous ces sujets sont passés en revue. Il y a un entretien quand même exclusif, inédit, hein, quand même. Hein. Il y a le en même temps. C'est pas moi qui le dis, c'est évidemment ses adversaires politiques. Et j'ai l'impression, quand même, que Emmanuel Macron veut convaincre, vous savez, qu'il ne mêle que lui-même. Il a été taxé de mener une politique d'extrême droite. Et il veut convaincre qu'il n'est pas en train de, justement, mener cette bataille de l'extrême droite. C'est pour ça qu'il a tapé fort et qu'il charge d'ailleurs le Rassemblement national. Alors, Élodie Bouzid, vous conseillère régionale Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette interview et
beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Justement, elle est bourrée de sens. Hein.
Eh ben, alors pour moi, c'est vraiment du macronisme à l'état pur, hein, franchement. Ce qui m'a toujours fait rire avec ce président...
Le contraire m'aurait étonné.
Mais oui,
clochette. Mais je sais pas, j'ai envie d'une clochette, moi, c'est genre...
Ce qui me fait rire beaucoup avec ce président, c'est que...
Ça vous fait rire en plus ?
Mais oui, ça me fait rire.
Clochette
parce que
encore.
Son arc républicain, il est modulable. Et c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire
c'est
que
le en même temps, c'est ça.
C'est le en même temps. Et c'est le en même temps où il place en même temps LFI, le RN et Reconquête au même niveau. Et puis, il sent les élections européennes approcher quand même. Il sent que ça sent pas bon parce que le RN monte.
Les sondages sont pas
étrangement, le RN monte, hein, mais ce reste là sa politique.
C'est pas il monte, il est en tête, paraît-il.
Paraît-il. Et paraît-il, donc, il sent que ça ne va pas. Et à ce moment-là, il réexclut de nouveau le RN de l'axe républicain. Mais oui, mais j'ai envie de dire à ce président, qui sème la misère récolte la colère. Il faut pas s'étonner.
Oh, Elodie,
non,
ah,
il ne faut pas s'étonner.
Elodie,
par
Elodie, vous êtes les écolos tout de suite. Je l'attendais, celle-là. Je vous voyais arriver.
On ne peut pas mettre la gauche et l'extrême droite au même niveau en les excluant de l'axe républicain. Pour rappel, ce président, d'ailleurs, a été élu parce qu'on appelle le barrage républicain. Donc, les voix de gauche, in fine. Voix de gauche qui l'exclut aujourd'hui en disant qu'elles sont hors axe républicain, tout comme le RN. Nous mettre sur le même piédestal et ensuite se plaindre de la montée
il
du RN.
Il vous a pas mis sur un piédestal qu'est-ce
non.
Que...
Mais bien sûr que si. Dans cette interview, il a dit que la France insoumise, notamment, était hors axe républicain.
Oui, il tacle Mélenchon.
Oui. Mais il tacle la gauche globalement, en fait, monsieur.
Beaucoup plus Mélenchon.
Il a plus intérêt à taper
sur le RN, vu que le RN monte. Après, qu'il exclut de l'arc républicain, je suis d'accord avec vous, c'est un non-sens. Il s'adapte en fonction de son auditoire ou son lectorat.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, si le RN...
Je suis pas sûr qu'il lui rende service, d'ailleurs,
en faisant ça. Non, mais il joue contre lui. Parce que plus on tape sur le RN, plus il monte. Et moins il parle le RN, plus il monte aussi. Mais donc, ça veut dire qu'on interdit le RN dans les élections législatives. Ils sont députés, on fait quoi ? Donc ils sont autorisés, ils sont républicains.
Ils sont là.
Ils sont par de facto, ils sont républicains. Ils sont dans l'arc républicain, le Rassemblement National. Que veuille ou pas le président Macron. Donc ils sont là et donc il faut faire quoi ?
Ils sont là, ils votent. Et
ils votent. Voilà. C'est pas des sous-électeurs. C'est pas des sous-électeurs et c'est pas des sous-députés.
Un peu trop. On les entend un peu trop.
Bah écoutez, ah bah
après, ils défendent leur beefsteak aussi.
Mais Elodie, je comprends pas. Elodie, non, faut nous expliquer, Elodie Bouzid. Ils sont élus démocratiquement.
Il n'y a pas un vote moins noble que
moi. Je ne suis pas partisan du Rassemblement National, mais ils sont là.
Ils existent.
Qu'est-ce qu'on va faire ? On va les virer ?
Non, c'est pas qu'on les vire. Mais
on fait quoi ? Ils ont été élus démocratiquement.
Il y a 90 députés, on fait quoi ?
Mais bien sûr, il y a 90 députés. Et bien sûr qu'ils ont été élus démocratiquement.
Et là, vous faites les offusqués.
Et ils n'ont pas
besoin.
Et c'est pas
juste offusqué. Je suis offusqué parce que Emmanuel Macron se plaint de ce qu'il a fait lui-même émerger. Voilà, moi c'est ça mon sujet.
Non, mais
c'est pas lui qui a fait
Ça fait 20 ans.
Qu'on dise que Macron a fait émerger le Rassemblement National, mais attendez, Elodie, franchement.
Les 3 ans magnifiques de la NUPES à l'Assemblée Nationale. C'est ça qu'il faut pas oublier. L'ERN, en fait, ne fait pas d'erreur à l'Assemblée nationale parce qu'ils font pas grand chose et parce que surtout on est focalisé sur les erreurs des guignols. Je suis désolé, il y a pas d'autre mot qu'on a en face où on apprend que le.
Vous pensez à qui?
À la NUPES, hein, globalement.
La
quand
NUPES,
on voit, quand
y compris Europe,
Boyard,
y compris Europe et écologie.
Ah, évidemment, y compris Europe et écologie. Qui nous a pondu une loi magnifique qui est qu'il fallait acheter des voitures électriques, mais maintenant, si vous avez un SUV électrique, bah, finalement, c'est un peu compliqué. Le ticket de métro pendant les JO sera à 4 euros et quelques.
Donc,
je croyais qu'il fallait prendre le métro, donc j'économise déjà, je vais casser mon PEL pour faire un petit voyage sur la ligne 8.
Après, ça, ce sera pas la faute d'Europe et écologie
des
mers, en l'occurrence.
Ah, c'est de la faute du RN, excusez-moi. Madame Hidalgo doit être au RN.
La région en Île-de-France, madame la
bon,
députée,
oui, conseil régional. Évidemment. Mais il y a un problème, il y a un moment, et Macron, c'est certainement pas moi qui vais le défendre, mais tout n'est pas non plus de sa faute. Après, pour revenir un peu sur l'interview, il fait quand même du en même temps qui est assez hallucinant. Déjà, il nous parle de l'arc républicain, je crois que tout le monde s'en fout de l'arc républicain. Soit pour le coup, Mélenchon l'a très bien dit, ou il s'en fiche complètement. Et en fait, je crois qu'il faut aussi arrêter, les Français, on en ras-le-bol. Le Français de gauche, il en a ras-le-bol qu'on lui dise que Mélenchon est bien ou pas bien. Il en a ras-le-bol qu'on lui dise que Sandrine Rousseau est bien ou pas bien. Il vote à raison ou à tort, ça c'est pas le sujet. Il vote pour qui il vote depuis longtemps. S'il veut changer d'avis, il change d'avis, hein. Il fait ce qu'il veut. Mais que quelqu'un lui dise voilà, il y a un arc républicain. Honnêtement, que ce soit à droite ou à gauche, c'est assez pénible. Et je pense que ça marche plus. Et en fait, Macron, c'est les vieilles recettes. Macron, il a 40 ans. Enfin, je veux dire, il a 40 ans politique. C'est les vieilles recettes, ça marche plus ce truc-là.
Bon, bah écoutez, on va entendre Jimmy Delito dans une poignée de minutes. Je lance juste la pause et on se retrouve. Gardez justement votre attaque.
Yes.
Je vous vois arriver. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h38 précisément, si vous venez de nous retrouver avec Elodie Bouzid, avec Augustin Vargue, Jimmy Dalidou et enfin Paul-Antoine. Je devais redonner la parole à Jimmy Dalidou concernant le sujet de l'humanité, l'interview inédite consacrée donc à 3-4 sujets, évidemment, concernant, y compris celui de la Rassemblement National, avec le président de la République.
Ouais, bah écoutez, je pense que le duo Monsieur Macron et Le Pen est très romantique. C'est un beau duo qui fonctionne très bien.
Très romantique.
Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez,
c'est je t'aime, moi,
dans un système comme le nôtre, qui est clairement ce que j'appelle moi, c'est subjectif, hein, ce qu'on appelle nous, mes camarades et moi, une dictature du capital. Faut comprendre que l'extrême droite devient le chien de garde des partis qui se disent républicains.
Mais pourquoi vous êtes
Monsieur Macron, mais je vais répondre. Mais si vous me laissez répondre, je vais répondre.
Est-ce que vous aimez les capitalistes?
Mais non.
Pourquoi vous avez un problème avec les capitalistes?
Je suis anticapitaliste naturel. Ça fait 22 ans que je suis anticapitaliste. Mais pour revenir sur ce que je disais. L'extrême droite a toujours utilisé, je n'invente rien, si vous analysez le cas Pinochet, si vous analysez les différentes séquences de l'histoire, vous constatez que, à un moment ou à un autre, si vous analysez entre 39 et 33, entre 30 et 39, en Allemagne, même en Italie, avant l'apparition du parti fasciste, le terrain du fascisme, de l'extrême droite, a toujours été préparé par les partis qui se disaient républicains. Monsieur Macron prépare 2027, parce qu'il a très bien compris qu'en basculant le RN au deuxième tour, il y a de grosses probabilités qu'en déclenchant le Front Républicain, ses copains seront réélus, voire ses copains de Renaissance. Donc en fait, il ne faut pas voir ce système qui consiste à dire « je t'envoie une petite pichenette politique à toi, RN, et qui est renvoyée », ben ça participe.
Vous êtes en train de dire tout ça, c'est un calcul tactique politique.
Je dis qu'il y a un moment, il faut se dire que, vous savez, c'est une élite politique qui est en place depuis longtemps, et qui défend les mêmes intérêts de classe, et qui défend les mêmes intérêts politiques, si vous voulez.
Paul-Antoine ?
On pourrait en parler longtemps, etc. Mais oui, globalement, je suis d'accord. Emmanuel Macron, il est pas bête. Il fait pas ça par hasard. Et je voudrais quand même vous rappeler, j'ai plus la date exacte, mais il y a quelques années, dans son premier quinquennat, il fait un grand interview fleuve à Valeurs Actuelles. Et les équipes de Valeurs Actuelles ont fait plusieurs voyages avec lui. Donc, il y a un nouveau, il fait pas ça par erreur. Il sait qu'il va plus ou moins prendre une banane sur les élections européennes, globalement. Lui prépare son siège de président de l'Union Européenne. Il y a deux options, soit c'est après moi le chaos et il veut que ce soit le chaos en France, mais dans ce cas-là, il a intérêt à faire monter le RN, soit il a, comme disait Jimmy, il veut que c'est un de ses amis qui prenne le terrain, et si c'est par exemple monsieur Darmanin, bah il a eu sa loi, monsieur Darmanin a eu sa loi. Maintenant, il fait monter le RN et monsieur Darmanin, comme de par hasard aujourd'hui, expulse un imam, enfin retire son
titre de séjour.
Titre de séjour à un imam.
Un exemple concret. Si Monsieur Macron faisant monter le RN, il sait très bien que si ses copains d'Horizon, Monsieur Édouard Philippe, par exemple, se présentait, Monsieur Édouard Philippe se présente pour Horizon. Dans le même temps, Monsieur Macron amorçant 2027, fait monter le RN. Il sait très bien qu'en faisant basculer le RN au deuxième tour et avec Horizon et Monsieur Édouard Philippe qui serait aussi au deuxième tour, bim, vous avez forcément le copain de Macron qui est anticipé, qui est amorcé.
Et je vais lancer le jingle pour
rappeler
les
mêmes intérêts de classe, la même classe sociale qui nous dirige malheureusement.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec ce qui est en train de se dire en direct même dans les informés? Augustin,
je suis pas sûr, pour revenir à ce que disait Jimmy, c'est ça?
Oui. Ouais.
Que Macron souhaite que Horizon et que Édouard Philippe vienne, parce qu'ils se détestent apparemment. Donc je pense que ce serait pour Gabriel Attal. Pour la relève.
C'est pas une question de personnage, c'est une question politique.
Moi je vais être d'accord, moi je vais m'accorder avec vous. Oui, c'est clairement une question de système. Et pour moi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une volonté de faire monter le RN. C'est clairement ce que je disais tout à l'heure.
Et de le faire gagner alors?
Pas forcément de le faire gagner, pas forcément de le faire gagner, mais en tout cas
de déclencher le front vert. Non, non, de déclencher le front républicain pour gagner derrière.
C'est comme ça qu'il a été élu avec son barrage républicain. Donc je pense qu'il veut essayer de mettre toutes les cartes sur la même table et de faire pareil. Ouais. Il va continuer.
Vous êtes convaincu de ça?
Ouais, mais c'est un jeu très dangereux. C'est un jeu très dangereux. Pourquoi? Parce que moi, je l'entends à gauche, c'est d'un grand cynisme. Et surtout, à gauche.
Bah, la politique française est d'un cynisme surdimensionné.
Les électeurs français sont lassés. Ils en ont marre d'être instrumentalisés. Ils en ont marre qu'on leur dise quoi faire quand ils sont devant les urnes, alors qu'en fait, ils choisissent entre la peste et le choléra. Ils le disent eux-mêmes. Ils n'ont plus envie de voter. Ils n'ont plus envie de voter. À droite comme à gauche.
En tout cas, nos auditeurs, ils le disent souvent. Ils ont dit souvent qu'ils étaient déçus des uns des autres d'Emmanuel Macron.
Et si on a une abstention trop élevée,
et même certains sont allés même dire, figurez-vous parmi nos auditeurs, et pourquoi pas Marine Le Pen?
Mais bien sûr.
Mais voilà, mais parce que ça la sert au final. C'est pour ça que c'est un jeu dangereux.
On peut faire le test là. 01 53 48 3000. Je vous attends et voilà. Et l'histoire de nous dire, moi je le sais puisqu'on l'a vécu sur notre antenne. Pourquoi pas Marine Le Pen? Je l'ai entendu plusieurs fois.
Il y en a beaucoup qui disent effectivement que même. Vous avez même certains gauchistes qui disent que stratégiquement, exactement, politiquement, vous savez, ça fait 22 ans que je milite. Je veux dire que stratégiquement, certains se disent que oui, si le RN passait, et en fait, ce serait le grand espoir qui s'est fait. On aurait aussitôt, parce que le RN mettra en application la politique des institutions européennes et la politique de la classe sociale qu'elle représente, et derrière ça ouvrirait la voie à un processus, par exemple un processus insurrectionnel, etc., que beaucoup attendent. Et pourquoi? Parce que le RN mettrait en application la même politique que les autres.
Pareil, ils auraient énormément de poils à gratter à gérer.
Donc sur le plan stratégique,
certains me disent que c'est des décrets qui vont freiner le cas de fer. Le Sénat, il y aura des contre-pouvoirs quand même.
Mais malgré un contre-pouvoir, ce qu'on voit sous la 5e,
avec les médias, via le macartisme français qui se présente, à mon avis, ça reste que de
mal se terminer. Moi, je vous le fond de ma pensée. Moi, je pense que même si le RN passe, est au pouvoir, est à l'Élysée, et que voilà, Marine Le Pen, admettons, faisons un peu de la politique fiction, pourquoi pas? Elle est élue en 2027.
Mais oui, il y aura un contre-pouvoir.
Moi, je pense qu'il y aura un contre-pouvoir aussitôt, c'est quoi, à l'Assemblée nationale.
Tout de suite, immédiat.
Il y aura un Premier ministre qui ne sera pas forcément de la majorité.
Bien sûr.
Je suis certain. Donc, Marine Le Pen sera présidente finalement, mais pour l'international.
Et en plus, ils seront obligés de travailler avec la droite aussi, parce qu'ils n'auront pas, une majorité. Ouais, mais ça sera très composé.
Vous savez qu'il y a opposition et opposition. Le problème dans ce pays, c'est quand le jeu parlementaire devient une fin. Et alors que tout se joue pas dans le cadre de l'hémicycle. Il y a opposition contrôlée, opposition loyale, acceptable, et la véritable opposition politique. Par contre, si stratégiquement parlant, encore une fois, effectivement, certains se disent, c'est la théorie qui est très présente, qui dit que si le RN passe, et forcément elle va faire le même jeu politique, mais devant une opposition qui reste une opposition loyale et acceptable à l'élite politique au pouvoir, ça ouvrirait la porte à un véritable changement politique.
Ah bah ça c'est sûr. Hein. Reda qui nous appelle du 95. Bonsoir Reda, je vais solliciter nos auditeurs parce que ça m'intéresse. Reda, vous nous appelez de quelle ville, Reda?
D'Argenteuil, dans le Val d'Oise.
Argenteuil, on a une grosse écoute là-bas. Vous êtes nombreux à nous écouter depuis Argenteuil. Hein. Non, c'est vrai, je vous le dis clairement, parce que ce fut une période où il y avait beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Reda, on vous écoute.
Bah, moi, j'entends un truc qui me surprend, c'est la volonté de faire monter le RN. Après, les stratégies politiques, elles doivent exister certainement dans tous les camps. Mais ce qui m'interroge, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a deux tours dans une élection, surtout l'élection présidentielle. Si un certain camp n'arrive pas à rassembler pour passer au second tour, il faut peut-être aussi s'interroger sur la base de cette gauche qui s'est déjà divisée, qui est multidivisée dorénavant, avec une NUPES qui vaut ce qu'elle vaut, donc j'ai envie de dire pas grand-chose. Et donc on parle de faire monter le Front National, enfin le Rassemblement National, par stratégie politique. Je le redis, il y a deux tours. Il y a un premier tour et un second tour. Comme on dit, premier tour on choisit, au second on élimine. Mais au premier tour, faut travailler, proposer quelque chose.
Oui, mais Reda, ça fait maintenant plusieurs années, plusieurs élections présidentielles, qu'on se retrouve avec le premier tour, le Rassemblement National, mon cher Reda, quand même. Donc je pense qu'en 2027, il risque quand même, il y a des chances quand même qu'il se retrouve au pouvoir. Là, il a jamais été. Reda, c'est la première fois qu'il a jamais été aussi proche du pouvoir. Franchement, il faut qu'on se le dise. Hein. Je suis pas en train d'alarmer les choses. Je suis en train simplement de faire un constat réaliste.
Il n'y aura plus de plafond vert en plus.
Voilà.
Je suis tout à fait d'accord. Et il faut combattre le Rassemblement National. Et quel que soit, moi personnellement, je suis du centre. Et quel que soit le candidat en face de la famille Le Pen, de la team Le Pen, je voterai contre.
Reda, vous êtes centriste droit ou gauche? Vous êtes quel centriste? Vous êtes quoi? Modem? J'aime bien le Modem. Il dit les Modem. Vous êtes avec comment il s'appelle? Avec, non, attendez, son président. Oh, c'est grave quand même.
François Bayrou.
François Bayrou.
François Bayrou.
Il est bien, François Bayrou, je vous dis, il est bien.
Ouais, avez... Il va être président d'ailleurs.
Non, mais il est bien, François Bayrou.
Il va être président en 2027.
Le modem, j'aime bien ce qu'ils incarnent, moi, j'aime assez bien. Élodie, attendez, Élodie veut échanger avec vous, Élodie.
Oui, Reda, vous dites un truc qui est quand même sacrément vrai, malheureusement, et à gauche, on le déplore aussi, c'est que la NUPES aujourd'hui n'est pas en état, et c'est ce que nous voulons construire, en tout cas pour 2027, pour les élections. Et c'est pour ça qu'a émergé aussi dans pas mal de partis de gauche la volonté d'une liste commune pour les européennes. Et voilà, ça va être ça notre cheval de bataille. Et c'est aussi le danger que j'identifie, c'est que contrairement à la gauche dans le pays, le Rassemblement National est en ordre de bataille, et ça fait des années qu'ils se préparent, qu'ils sont unis et qu'ils font front commun. Et mais c'est pour ça qu'à mon sens, ils n'ont jamais été aussi proches du pouvoir.
Qu'est-ce que vous répondez C'est la conseillère régionale qui vous parle, hein, Reda. Hein,
faites enfin, il ne faut pas qu'ils s'en étonnent. Pardon. Il ne faut pas qu'ils s'en étonnent.
Élodie Bouzide.
Ils foutent le bordel.
Ah, pardon. C'est drôle parce que
Reda.
Il y a quelques minutes, j'entendais, vous disiez, c'est un camouflet pour la majorité présidentielle. Pour moi, ce n'est pas un camouflet. Quand on regarde, il y a des sondages qui sortent, mais où sont les écolos? Où sont la France Insoumise? Où sont le PS dans ces sondages? Ils sont au plus bas. Et eux, qui sont au plus bas, sont certains en dessous de 10, se permettent de parler d'un camouflet pour un parti qui a arrivé.
Mais alors, ça c'est sacrément marrant, mais là vous parlez d'environ 4 partis. Si on cumulait nos scores, on ne serait pas au plus bas, on serait même en tête.
Ça se cumule pas.
Et c'est ça,
avec vous.
C'est ce que j'ai
dit.
L'opposition
et vous achevez, Reda.
La liste unie, vous ne jamais pourrez vous entendre.
Oh là là, Reda, il vous a fait une bonne chose.
Vous avez tellement de bordel que vous.
Mais qui fout le bordel? Qui fout le bordel?
Les filles foutent le bordel à l'Assemblée.
Non, la NUPES.
La
NUPES.
La
NUPES.
La NUPES. La NUPES.
Attendez, je vais libérer Reda.
Il respectabilise.
Attendez, s'il vous plaît. Reda.
S'il vous plaît, est-ce que vous regardez l'Assemblée? On n'entend que gueuler, en fait. C'est inaudible. Et on va parler plus généralement des Français. C'est un sketch, l'Assemblée. Moi, je me positionne devant mon écran et je vois ça. C'est un spectacle, mais c'est risible.
En tout cas, vous savez quoi? C'était un plaisir que vous nous appeliez ce soir, mon cher Reda. Continuez à nous appeler, continuez de Pierre Janté. Et c'est bien, continuez. Ne lâchez rien, Reda. Alors, très vite, avec grand plaisir.
Juste un élément sur la gauche, effectivement. Le problème, on sait bien que, à l'époque, vous savez, à l'époque, on parle de l'époque de Thorez, Duclos, etc. À l'époque, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, il y avait un parti communiste français qui avait encore des principes et des valeurs.
Il y avait
ce qu'on appelle un équilibre des classes. Un équilibre des classes.
Exactement.
Et le fait que la gauche devienne la gauche caviar.
Laissez tranquille le RN.
Faut dire.
Je veux pas qu'on se mette en retard, le quoi de neuf?
Les informés. Le quoi de neuf?
Le quoi de neuf, comme chaque lundi, je vous le disais tout à l'heure, il est éditorialiste, mais également le directeur fondateur d'Opinion Internationale, c'est Michel Taube. Bonsoir Michel Taube.
Bonsoir mon cher Adil, bonsoir aux auditeurs de BFM.
Ça tombe bien, ça, vous savez quoi, ça a généré chez nos 4 débatteurs et débattrices un débat qui a été sulfureux ce soir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parlait justement de cette fameuse interview inédite dans l'humanité. On vous écoute, c'est votre billet d'humeur.
Oui, alors... Emmanuel Macron nous fait le grand écart après avoir été interviewé par Valeurs Actuelles il y a 2 ans. Maintenant, c'est l'humanité. C'est du pur en même temps macronien. Mais d'abord, permettez-moi, mon cher Adil, j'aimerais quand même saluer l'entrée au Panthéon du couple Manoukian qui était des grands résistants. À travers eux, c'est aussi la reconnaissance qui a déjà été faite par la France du génocide arménien. Le fait que des étrangers sont venus en France.
Vous avez raison.
Choisi la France.
Grand poète,
résistant communiste. On peut faire beaucoup de reproches à Emmanuel Macron, mais je trouve qu'il a fait des choix de faire entrer des personnalités en Panthéon quand même assez exceptionnelles. Il y a eu Simone Veil, il y a eu Joséphine Baker, qui elle aussi avait choisi la France, comme les Manoukian. Voilà, il y a des choix qui sont quand même très forts. Il a annoncé la semaine dernière que Robert Badinter entrerait également au Panthéon. Voilà, donc d'abord, saluons ces choix, qui sont des choix, à mon avis, de vérité, d'union, et qui correspondent évidemment à des grands moments de l'histoire de France. Après, j'ai lu attentivement l'interview du président de la République dans l'Humanité. Voilà, entre Emmanuel Macron qui fait voter la loi sur l'immigration en décembre avec les voix du Rassemblement National et un Emmanuel Macron qui dit « je préférais que Marine Le Pen ne participe pas à l'entrée au Panthéon de Manoukian », on est dans un paradoxe, on est dans un an en même temps macronien qui touche à ses limites et qui montre bien le malaise qui traverse la société française. Le Rassemblement National fait-il partie de l'arc républicain? Le Rassemblement National a-t-il sa place dans un hommage à un résistant communiste qui s'est battu contre le nazisme, alors que le parti de son père, le père de Marine Le Pen, descend en droite ligne des fascistes et évidemment des pétainistes que nous avions dans les années 30 et 40. Tout cela, évidemment, provoque un malaise très, très important. J'ai envie de vous dire, suspendons un peu toutes ces polémiques et accueillons tous ensemble ces grands résistants au Panthéon. Mais c'est vrai que malheureusement, nous ne sommes qu'au début d'une longue période de malaise dans notre société française qui va certainement être ponctuée en 2027 lors des élections présidentielles.
Vous avez bien raison de le rappeler. Merci pour ce billet d'humeur et bravo mon cher Michel Taube.
Merci à vous pour cette belle tribune. Merci cher Adil.
Et ne manquez pas d'aller lire Opinion Internationale, je vous le dis, c'est le média en ligne qui est en vogue. Allez le lire, allez le découvrir, chers amis. Qu'est-ce que vous voulez dire pour l'Antoine? Très court, hein?
Excellent billet, comme toujours. Maintenant, c'est clairement dû en même temps parce que il fait venir donc un Français d'origine arménienne au Panthéon. Monsieur Macron n'a eu aucun mot pour les Arméniens qui ont été massacrés et génocidés par Monsieur Aliyev, l'Azérie, pour une question de pétrole et de gaz. Monsieur Jimmy devrait être d'accord avec moi là-dessus. C'est les intérêts qui priment. Donc c'est de la communication comme toujours.
Et je rends l'antenne. Merci Jimmy Dalidou.
Merci à vous.
Merci Paul-Antoine.
Merci.
Jimmy Dalidou, représentant syndicaliste CGT, mais également auteur.
D'ailleurs, le 8 mars, grève féministe organisée par la CGT.
Analyste Paul-Antoine. Absolument. Entrepreneur, notre Augustin Vargue. Notre conseiller régional Europe Écologie Les Verts, merci Elodie Bouzid, vous reviendrez très très vite. À la réalisation, c'était Solal, Bilan Edman pour Time Sport. Ensuite, vous avez le droit de découvrir Vanessa, comme chaque soir, dans Confidence. Demain, c'est Kim. À demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien, les amis.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.